Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, les abeilles perdent le nord et Terre à Terre en profite pour se promener. Une émission ce matin qui doit beaucoup au hasard, le hasard qui nous a conduit à Calvi en Corse au moment même où se tenait un congrès d'apiculture qui réunissait une bonne cinquantaine d'apiculteurs, pour la plupart français, mais également avec des visiteurs québécois. C'est déjà important peut-être de préciser, là j'ai utilisé le mot apiculture, qui est un mot un peu général. Qu'est-ce qui est spécifique aux éleveurs de rennes?
L'apiculture, je crois présentement que l'apiculture se spécialise et prend une nouvelle tournure. Antérieurement, les apiculteurs étaient éleveurs, ils pouvaient être pollinisateurs, ils pouvaient être producteurs de miel, transformateurs. Présentement, avec la complexité de chacun de ces domaines-là, je crois que, sur le plan de l'élevage de rennes, les techniques ont évolué et la complexité a amené finalement une spécialisation nécessaire pour créer des développements plus pertinents sur la qualité des rennes à travers, par exemple, leur résistance aux maladies ou leurs caractéristiques de caractéristiques reliées, par exemple, à la production de miel ou à leur aspect en tant que pollinisateur, des trucs comme ça.
Mais qu'est-ce qui a entraîné cette complexité? Parce que quand on vous écoute, on se demande si vous avez suivi un peu le même chemin que ces techniciens de l'agriculture qui ont transformé l'agriculture d'autrefois en quelque chose d'extrêmement technique, intensif. C'est ça? C'est votre souci premier?
C'est notre souci premier. Le souci premier, finalement, est relié à l'aspect sanitaire. La problématique à travers l'agriculture, je crois, dans tous les domaines, c'est l'aspect sanitaire. L'apparition de parasites, l'apparition de nouvelles bactéries, de nouveaux virus qui amènent une complexité qui était peut-être moins développée antérieurement. Dans le cas des abeilles, on a une problématique qui est reliée au varroa, qui est une araignée finalement qui s'attaque à l'abeille et qui décime des millions de populations d'abeilles à travers la planète. Donc cette maladie, ce parasite en question a migré à travers la planète, ici en Corse, au Québec, à travers tous les pays, et ça a changé le caractère de l'apiculture de façon drastique.
Paul Tristanis, varroa, on l'a en France aussi et en Corse également.
Oui, mais on l'a en Corse, en continent, je pense dans la Grèce, en Grèce, enfin un peu partout en Europe, d'ailleurs. Je pense qu'il n'est pas encore en Nouvelle-Zélande.
Il est en Nouvelle-Zélande, oui, il est arrivé 2 ans passés. Il est partout sur la planète, à l'exception d'Hawaï et de l'Australie.
Bien, ben, nous, en tant que Corse, on aurait pu échapper...
Du fait de l'insularité,
puisqu'ici on a un texte de loi qui interdit l'importation d'abeilles en Corse. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air de suffire. Le problème avec le varroa, le 17, c'est que on a subi des pertes très lourdes sur nos colonies. Donc il a fallu passer d'une apiculture un peu pépère à une apiculture beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus technique. Dans ce métier-là, il y a des gens qui font des rennes et des essaims, et il y a des gens qui font du miel. Moi, je suis plutôt producteur de miel, et je fais mes rennes pour moi-même. Et donc, à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'une technique fantastique. Mais depuis toutes ces pertes, je pense qu'il a fallu passer à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on avait ces journées-là avec l'NRCA.
Et c'est le cas de tous les apiculteurs, que ce soit des petits apiculteurs, on hésite à parler d'artisanat, mais enfin là, ce que vous décrivez, c'est quand même une toute petite entreprise, de la même façon que les plus gros apiculteurs.
Oui, de toute façon, le problème, que vous soyez petit ou grand, vous êtes contre votre même problème. Parce qu'Alicette parlait du varroa, mais il n'y a pas que le varroa. Il y a tout l'environnement sanitaire, problème de pesticides, problème... Parce que l'abeille est un révélateur de tout ce qui est problème environnemental. Tout ce qui existe dans l'environnemental se retrouve sur les fleurs et donc dans la ruche. Que ce soit n'importe... ici, nous, en Corse, on est quand même assez préservés parce que le territoire, 90% du territoire, est un territoire vierge. Mais dès qu'on touche à l'agriculture, on s'approche de l'agriculture, on voit qu'on a des gros problèmes et d'intoxication, de perte d'abeilles, de perte de cheptel. Et voilà, donc c'est encore un problème qui se greffe pour nous.
Si on essaye de faire, Anicette Desroches, si on essaye de faire un tableau général...
Je crois qu'il faut évoquer dans un premier temps l'importance de l'abeille. L'abeille est un bioindicateur qui est sur Terre depuis environ 400 millions d'années. Depuis ces 400 millions d'années-là, la morphologie de l'abeille n'a pratiquement pas bougé. Cette caractéristique-là fait en sorte que l'abeille... est essentiel finalement au développement de ou plutôt à l'évolution constante de la planète. Pourquoi qu'on entend plus parler des abeilles présentement?
Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle pour le développement de la planète?
Elle est essentielle par la pollinisation qu'elle effectue. Il faut savoir que 40% de toute l'alimentation qui est directement reliée à la pollinisation de l'abeille. Donc sans l'abeille, Einstein le disait, sans abeilles durant 5 ans, eh bien l'humanité disparaîtrait.
Mais quand même, ce qui m'intrigue dans ce que vous dites, c'est que si sa morphologie n'a pas changé depuis 400 millions d'années, on ne peut pas en dire autant de la végétation sur la planète.
Effectivement, mais si elle n'a pas changé, c'est qu'elle est déjà ultra adaptée et que son adaptation s'est faite en commun avec avec l'évolution des végétaux. Elle suit finalement la transformation de l'évolution de la planète à tous les niveaux.
Et est-ce que vous êtes encore très jeune, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu une aggravation brutale de la situation?
Non, moi je pourrais pas le dire parce que j'ai sauté ou j'ai fait le saut en apiculture au moment même où ce que les parasites et puis l'aspect sanitaire était plutôt dans son moment le plus dur. Donc j'ai appris. J'ai développé mon entreprise et j'ai développé ma capacité de résister aux problématiques de l'apiculture dans le moment clé. Mon père pourra en parler autrement, Polo pourra en parler autrement parce que lui il a vu les différences avant la maladie et le présent finalement.
Paul Tristany?
Oui, c'est vrai, moi j'ai connu l'apiculture avant Varrois. Ici encore, s'il arrivait un peu plus tard, donc on savait qu'il allait arriver, mais on s'adaptait et ça n'avait plus rien à voir. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais un paysan, apiculteur, montagnard. Je vivais de mon produit et aujourd'hui, je suis un technicien. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je viens technicien pour le plaisir de connaître l'abeille. De la biologie, etc., pour mon plaisir, mais j'ai pas envie de devenir je suis obligé d'être technicien pour m'adapter à ce monde.
Mais est-ce que la technique est suffisante pour vous sauver et pour sauver vos abeilles?
Oui, pour nous ici, bon, je ne peux pas parler pour... je pense que Anicette a voyagé un peu plus que moi, mais ici, oui, en Corse, oui, je pense qu'on a une grande chance... de travailler toujours avec une abeille des côtés de Corse. On a une grande chance d'être préservé environnementalement et la technique nous aide vraiment à avancer. C'est-à-dire c'est des techniques d'élevage de rennes.
Mais tout de même, là, ce que dit Paul Tristany, c'est que c'est possible parce que la situation n'est pas encore catastrophique en Corse, Anicette Desroches. Donc je vous repose à vous aussi la question, est-ce que la technique, passée à un certain seuil, est-ce que la technique qui est devenue nécessaire est suffisante?
Suffisante, non, je crois pas. Je crois qu'il y a une constante évolution. Le développement des techniques apicoles sont présentement en constante évolution. On peut parler des programmes de sélection génétique qui sont faits sur l'abeille, qui demandent beaucoup d'années. Présentement, on découvre des nouveaux mécanismes de résistance chez l'abeille. On travaille par la sélection à développer le plus rapidement possible une abeille qui résiste naturellement aux parasites sans, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques pour contrôler ces maladies-là. Je crois que l'abeille évolue et l'apiculteur évolue par le fait même.
En fait, ça passe par la reine.
Ça passe par la reine parce que la reine reproduit des colonies d'abeilles qui eux se défendent aux nouvelles réalités. Oui. Donc l'élevage de reine est présentement là, au centre de l'apiculture.
Est-ce que vous diriez, comme Paul Tristany, que on devient technicien pas par goût ou par choix, mais par obligation?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. À titre d'exemple, Mon père, qui était apiculteur paysan, comme le disait Paul, a beaucoup de difficultés à comprendre présentement les nouvelles transformations, la réalité apicole du 21e siècle. Je crois que présentement, il y a un degré scientifique qui n'était pas présent antérieurement et puis qui amène une beaucoup plus grande complexité qu'antérieurement, définitivement.
Et vous, qu'est-ce qui vous fait choisir ça malgré tout?
La passion du challenge. C'est une constante évolution, donc c'est année après année, c'est de faire face aux nouvelles réalités et puis de écouter les abeilles, c'est passionnant, les abeilles c'est un monde qui est en constante transformation, donc ça amène beaucoup de plaisir.
C'est rare, Arnold. L'abeille, c'est vraiment un petit animal curieux. À la fois tout petit, assez discret, et qui en même temps occupe une place vraiment importante dans l'imaginaire collectif. Et autour de l'abeille, on sent bien, depuis quelques années, une inquiétude grandissante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des abeilles qui justifie ou ne justifie pas cette inquiétude ?
Alors l'abeille, effectivement, c'est un animal sérieux, même passionnant à étudier. Son importance, elle n'est pas due simplement au mythe, mais simplement elle assure la pollinisation de très nombreuses cultures et de plantes sauvages, donc elle a un rôle écologique considérable, et naturellement elle apporte du miel, qui a été la première nourriture sucrée de l'humanité, et qui reste encore un produit très, très sain, très naturel, très bon à consommer. Et donc l'abeille, elle a plein de facettes, plein d'utilités. Et depuis quelques années, effectivement, on dirait qu'il se passe des choses dans les ruches, qu'on ne maîtrise pas totalement d'ailleurs. Alors il y a probablement de nombreux facteurs qui interviennent, en tout cas plusieurs facteurs. Il y a l'utilisation des pesticides en agriculture. Il y a également le fait que les cultures intensives diminuent la biodiversité végétale. Enfin, il y a toute une série de facteurs de cette nature qui font que beaucoup d'apiculteurs que l'on rencontre disent que les récoltes sont moins bonnes qu'avant et que les abeilles meurent davantage qu'avant.
Alors si on regarde un peu plus près maintenant, vous avez évoqué déjà plusieurs facteurs, je pense qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas encore évoqués. Il y a la fameuse abeille tueuse, il y a les mélanges d'essaims, les reines importées, enfin il y a toutes sortes de choses. Donc on a affaire à une activité extrêmement traditionnelle et très ancienne, vous l'avez dit, puisque c'est pratiquement dès le début de l'humanité qu'il y a des liens entre hommes et abeilles. Et dans l'emballement qui a cours aujourd'hui, par où est-ce qu'on a commencé à repérer quelque chose qui changeait?
Alors, vous avez évoqué les abeilles tueuses, bon, ça ne nous concerne pas, hein. C'est un problème uniquement américain, qui est dû à l'achat de reines africaines par des Brésiliens, et ces reines ensuite se sont mélangées aux abeilles locales pour donner une abeille plus agressive qu'on a appelée abeille tueuse ou abeille africanisée. Donc on n'est pas concerné par ce problème.
Pas ou pas encore?
Non, on n'est pas concerné par ce problème, on ne le sera pas, parce que tout d'abord elle a une limite climatique qui fait qu'elle ne pourrait pas vivre sous nos latitudes, en France en tout cas, et puis personne n'a l'idée d'importer des abeilles africaines pour améliorer l'apiculture en France. Parce que quand les Brésiliens ont fait cela, c'était pour améliorer l'apiculture dans un milieu tropical, subtropical. Parce que jusqu'à présent, au Brésil, il n'y avait que des abeilles européennes apportées par les colons. C'est-à-dire des abeilles d'origine française, italienne ou espagnole.
Donc, il n'y a pas d'abeilles en Amérique latine à l'origine?
Non, il n'y a pas d'abeilles mellifères, Apis mellifera, l'abeille domestique. Elle n'existe pas. Il y a des abeilles sans aiguillon qui produisent de très petites quantités de miel et qui ne sont pas intéressantes pour la production. Donc les colons, quand ils sont arrivés, ont apporté un certain nombre d'animaux, dont les abeilles qui leur fournissaient le miel. Et donc ces abeilles, pendant plusieurs siècles, 3 ou 4 siècles, sont restées les abeilles dominantes en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, les abeilles européennes. Et puis depuis 1956, l'abeille africanisée migre dans le nord de l'Amérique du Sud, puis maintenant au sud des USA. Mais on n'est pas concerné, encore une fois, par ce problème. Alors vous avez évoqué également les problèmes d'importation de rennes. Non, ce n'est pas un problème majeur. En France, les travaux de notre laboratoire, en particulier avec l'équipe, le groupe de Lionel Garnery, ont montré que plus de 70% des abeilles en France étaient encore d'origine locale. Et en fait, les abeilles qui ont été importées de pays voisins se comportent pas de manière très différente par rapport aux pesticides ou autres problèmes de cette nature.
Qu'est-ce qui a conduit à ces importations?
Alors, d'abord, il y a un parasite qui est l'acarien varroa destructeur, qui a fait beaucoup de dégâts dans les colonies il y a une trentaine d'années, qui a donc décimé des colonies, et un certain nombre de gens ont racheté des abeilles à l'extérieur, et en particulier des races Carnica ou Caucasica, ou Buckfast, parce qu'ils pensaient qu'elles étaient plus douces que l'abeille locale française, et puis parce qu'en France, on a du mal à trouver des fournisseurs d'abeilles locales, les reines locales. Donc il était plus facile finalement d'en acheter juste à l'extérieur.
C'est-à-dire que traditionnellement, il n'y a pas d'éleveurs de rennes en France, ou peu?
Si, il y a des éleveurs de rennes en France, mais étant donné le nombre de colonies qui ont été décimées depuis des dizaines d'années, en fait, il semble que les éleveurs de rennes d'abeilles locales ont du mal à fournir. Et donc, dans ce cas-là, les apiculteurs se fournissent à l'extérieur sur des abeilles européennes qui viennent soit d'Allemagne, du Luxembourg ou de pays comme ça. Alors, j'ai évoqué varroa destructeur tout à l'heure, qui continue à être présent en France. La plupart des apiculteurs pensent qu'il est sous contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont des produits qui permettent de le tuer et ils vivent avec. D'autres apiculteurs pensent que c'est toujours une menace, un problème important. Mais les autres problèmes importants, facilement évoqués, ce sont les pesticides utilisés en agriculture. Alors, il y a eu un certain nombre d'affaires il y a quelques années, en particulier autour d'un pesticide systémique, le gaucho, avec une molécule qui s'appelle l'imidacloprid, qui enrobait les graines de tournesol et de maïs. Et en fait, les abeilles, lorsqu'elles butinaient les tournesols, le nectar ou le pollen, ou lorsqu'elles récoltaient le pollen de maïs, il a été montré depuis qu'elles ingéraient la molécule d'imidacloprid. Donc, le rapprochement était facile de faire entre cette ingestion d'un insecticide très puissant et les troubles des abeilles dans les régions de grande culture où ces molécules étaient utilisées.
Il y a eu le régent aussi?
Oui, il y a eu plusieurs molécules de produits systémiques qui ont été utilisées sur le tournesol et le maïs. Alors, il y a également d'autres produits qui sont utilisés en agriculture dont on ne connaît pas forcément bien les effets sur les abeilles, car jusqu'à présent, lors des essais d'homologation, en fait, l'abeille n'est pas extrêmement bien considérée. Il y a quelques tests qui sont faits, mais de manière insuffisante, eu égard à la complexité de cet insecte et à son système nerveux, au comportement qu'elle réalise, etc. Ces affaires ont au moins eu le mérite de montrer que les tests d'homologation n'étaient pas satisfaisants en ce qui concerne les abeilles. Et donc, il y a des pistes maintenant pour améliorer l'homologation d'un produit phytosanitaire par rapport aux abeilles. En particulier, il faut mieux prendre en compte ce qu'on appelle les effets sublétaux, c'est-à-dire que le produit ne tue pas forcément l'abeille immédiatement, mais il peut affecter le comportement, le problème de mémoire des abeilles, le problème d'orientation, qui peuvent faire qu'elles ne retrouvent pas leur ruche, etc. Il y a tout un tas de comportements maintenant qui doivent être étudiés par rapport à ces produits.
Alors Gérard Arnold, vous avez également évoqué l'agriculture intensive et donc la perte de biodiversité. Et de fait, on imagine bien que dans des champs monochromes à perte de vue, les activités de l'abeille sont tout à fait empêchées.
Alors bon, en général, les apiculteurs savent faire face, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les transhumances, ils bougent leurs colonies. Donc une fois qu'ils ont récolté par exemple le colza ou le tournesol, ils bougent leurs colonies pour aller dans des cultures autres, ou en forêt même. Donc ce problème qui est valable pour les espèces naturelles, on va dire sauvages, comme les autres pollinisateurs que l'abeille, là il y a un réel problème. Pour les abeilles domestiques, en général l'apiculteur, il voit bien quand sa colonie ne rentre plus rien. Et dans ce cas-là, il la déplace. Il y a encore des régions, heureusement, à part les grandes cultures, des régions de bocage, des régions de forêt, où on peut placer des colonies d'abeilles. Par exemple, sur le colza, les abeilles restent sur quelques semaines, sur le tournesol aussi. Donc, entre-temps, les gens bougent vers le châtaignier, vers d'autres cultures. Mais c'est vrai que ce serait plus simple s'il y avait sur place une infinité de plantes nécessaires pour nourrir les abeilles.
Et d'ailleurs, il y a eu un mouvement qui essaye d'instaurer ce qu'ils appellent les jachères apicoles.
Oui, semble qu'il y ait ce groupement. Bah, écoutez, c'est une bonne idée. Ça peut pas résoudre à soi seul tous les problèmes de l'apiculture. C'est sûr que, de manière évidente, si vous mettez des fleurs mellifères ou pollinifères dans l'environnement des abeilles, les colonies iront vers ces fleurs et s'en nourriront. Ceci dit, il faut des sacrées surfaces quand même, hein, pour nourrir une colonie. Hein. Il y a 40 000 abeilles dans une colonie, et donc il faut pas juste un petit bosquet de jachères apicoles. Si c'est sur des grandes surfaces, ça va être intéressant pour l'apiculture. Mais de toute façon, si par ailleurs, les abeilles dont on ne maîtrise pas la direction de vol, elles vont également sur des cultures traitées par des pesticides, elles auront beau aller par ailleurs dans une jachère apicole, elles pourront présenter des troubles dus aux autres cultures qui sont dans l'environnement. La distance de vol d'une abeille est de plusieurs kilomètres. En général, 50% va à moins de 2 kilomètres, mais vous avez un certain nombre d'abeilles qui vont beaucoup plus loin que 2 kilomètres. Le record, c'est à peu près 10 ou une quinzaine, mais très peu d'abeilles vont aussi loin. Ce serait pas rentable d'aller chercher du nectar s'il faut le consommer pendant le vol du retour. Mais néanmoins, les abeilles vont dans toutes les directions et à des distances de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
Alors justement, si on reste sur cette idée d'aller-retour, des cultures vers l'abeille, c'est devenu plus compliqué. Est-ce que de l'abeille vers les plantes, c'est devenu plus compliqué aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, elle arrive toujours à conserver son rôle de pollinisatrice, ou bien est-ce que on commence à sentir des difficultés là aussi?
Alors, il y a des pays, je crois aux États-Unis, par exemple, il y a des problèmes de pollinisation. En France, je ne connais pas extrêmement bien le sujet. Je sais que les arboriculteurs, par exemple, louent des colonies d'abeilles pour polliniser les pommiers, etc. Et c'est sûr que moins il y aura de colonies d'abeilles, plus les arboriculteurs ont des problèmes pour polliniser leurs arbres. Donc on est face à un éventuel problème qui va toucher non seulement l'agriculture, finalement, mais aussi toutes les espèces sauvages que les abeilles pollinisent. L'abeille domestique, ainsi que les autres espèces pollinisateurs, ont un rôle considérable dans la pollinisation des espèces sauvages et donc dans le maintien de la biodiversité végétale.
Et ici, pour moi, c'est un peu comme un pigeonnier. Enfin, je ne vous prends pas pour des pigeons, mais c'est quand même un peu ça. C'est un centre d'où on va s'éloigner pour y revenir. Parce que là, on va trouver notre miel dedans, qui est la bibliothèque, qui est le savoir, qui est la culture accumulée. Mais ce que je dis, finalement, c'est aussi le rapport qu'il y a entre la nature et la culture. Parce que la nature, elle est ce centre. Et la culture nous en éloigne. Elle nous amène aussi à le considérer, à le prendre en considération, mais aussi à s'en écarter. Car elle nous propose sans arrêt une sorte de simulacre de la nature. La culture n'est faite, à mon avis, que de simulacres.
Surprise, Maurice Chaudière, que nous avions rencontré dans son Ardèche, est à Paris, en compagnie d'Olivier Darné, celui qui installe des ruches au cœur de la ville et qui récolte du miel béton.
Je pense qu'il y a envie de marcher, là, parce qu'une promenade où on ne marche pas, c'est... Cependant, sur le fait de parler du centre et du témoignage en fait raconté par les abeilles, on est sur une promenade. Donc, promenade statique, c'est une promenade. Finalement, qu'est-ce que l'on est en train de faire en posant une ruche sur le centre? On va avoir une sorte de témoignage. Parce qu'on est au cœur de l'agglomération, de la métropole, mais aussi de la mégalopole, on le sait. Donc on est en train de faire un point zéro, quoi, un vrai point zéro. Un point zéro d'un miel de référence qui va, depuis ce centre, créer finalement un point de comparaison. Qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment au cœur du système, donc au centre du centre? Et qu'est-ce qu'on va être en mesure de dire lorsque, l'année prochaine, on sera en mesure de comparer cette densité, cette ville dense et intense depuis le centre, à un miel qui aura été produit à la même période par une autre ruche tout à fait cousine, à 3 km vers l'est, à 6 km, à 10, et comment finalement, en allant jusqu'à 20, 30, 40, sur la même latitude, on sera en mesure d'interroger l'homme et sa relation à la nature et à la densité de la ville entre l'urbain, le périurbain et les premières zones de grande culture. C'est en fait tout le projet qu'on est en train de monter qui s'appelle zone sensible, au pluriel, avec des S, où justement on va questionner cette question du sensible et cette sensible politique question de la ville et du combat quotidien que la nature et l'homme entretient sur cette envie de nature maîtrisée et cette relation économique entre la logique urbaine du promoteur, cette ville dense et horizontale qui se développe, comment à la marge de la densité les villes nouvelles continuent, dont on a parlé hier, d'avancer ou peut-être à l'horizontale plutôt que verticalement. Ça crée plein de choses. Tu l'as expérimenté dans le 13e avec qu'on pourrait appeler le village vertical. Est-ce que finalement, la laideur de ce qui semble être, oh là là, ces pauvres gens qui vivent dans ces immeubles, ça doit être terrible. Au final, il y a une communauté, il y a une vraie vie sociale, il y a du village. Il y a du village, et c'est peut-être au niveau après de la gestion des flux, de l'énergie, des transports, des choses qui sont peut-être un peu plus facilement gérables que la continuité du remplissage horizontal de la ville qui grossit, qui grossit, qui grossit. Ben ça, en fait, c'est des questions qu'on va poser, et puis les abeilles vont aussi nous aider à poser ces questions-là.
Oui, c'est tellement que le miel qui est fait en ville est vachement plus goûteux. C'est ce petit goût de plomb, je pense que c'est ce côté plombé qui doit donner ce goût. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas entendre ça. La revue Que Choisir a fait des analyses à l'époque sur des miels français, elle avait fait une analyse de pesticides, métaux lourds et tout, elle avait trouvé un peu de tout, malheureusement. Et c'était des miels qui étaient produits en campagne, alors imaginez en ville. Il faut être sérieux avec. Je pense qu'il faut vraiment être sérieux.
Mais tout de même, l'agriculture intensive, elle a changé les paysages, elle a changé les floraisons pour les abeilles.
Oui, mais je pense qu'il s'est passé dans ces endroits où l'agriculture est vraiment devenue intensive. Si c'était de l'agriculture où genre colza, tournesol, où il y avait des fleurs, plus ou moins les apiculteurs se sont adaptés. Comme maintenant ils ont des gros problèmes de dévastation de cheptel. Sinon, quand c'est blé en bosse, il n'y a pas d'apiculture, il n'y a plus d'apiculture. Voilà, il devait exister. Donc, c'est pas l'agriculture qui s'adapte à l'apiculture, c'est l'apiculteur qui est obligé de s'adapter au monde. Il est toujours poussé dans ses retranchements.
Et vous, Anicette, l'agriculture intensive?
Eh bien, tous les apiculteurs disent que leur miel est meilleur que celui des autres, dans un premier temps. Nous, dans notre cas, on est à peu près à 250 km au nord de Montréal, où que finalement l'agriculture est restée très très minime, très petite, où on a une diversité florale qui est indigène, propre à notre région, qui est entourée de forêts, de lacs, c'est très sauvage, ce qui nous permet de faire un miel certifié biologique. Notre miel est beaucoup plus complexe et beaucoup plus floral que les miels qui sont produits en culture intensive. Non pas parce qu'on produit du meilleur miel ou qu'on est des meilleurs apiculteurs que les autres, mais effectivement, les cultures intensives vont générer des miels qui vont être beaucoup moins savoureux, beaucoup moins complexes au niveau des goûts. Et puis, on en a la preuve. On est capable de le goûter, de le voir.
Jusqu'à présent, le Corse, le Québécois, vous parlez d'une même voix. Est-ce que vraiment tout est pareil de la Corse au Canada?
Tout est pareil, tout est différent. Tout est différent. La passion reste la même, l'abeille est la même. Les climats sont différents, les temps de travail sont pas les mêmes. Les saisons ici en Corse, je suis ébahi par la durée de leur saison apicole, ce qui me rendrait heureux parce que nous au Canada c'est très court. Il y a beaucoup de différences, mais en même temps, le métier reste le même et la passion doit être la même, j'imagine.
Paul Tristan, vous voyez-vous que votre métier a changé définitivement si vous êtes là pour survivre avec l'abeille et vous le disiez, devenir un technicien, est-ce que c'est pour toujours?
Malheureusement, je pense que... oui, je pense que oui. Aujourd'hui, parce qu'ils se décident, ils se décident. Aujourd'hui, hier on a eu Varroa, ils se décident des nouvelles maladies, Tumida. Il y a un échange terrible de populations d'abeilles. Ça part d'Australie, ça arrive au Canada, ça revient en Guadeloupe, ça revient en France. C'est en fait un commerce international où nous, ce parasite s'appelle Tumida, Atelia Tumida. C'est un parasite qui rentre dans la ruche, une espèce de petit scarabée, qui pond des milliers d'œufs. Et alors là, de ce milieu d'œufs naissent des larves qui contaminent le miel, qui bouffent le miel, la cire. C'est une vraie catastrophe. Bon, nous, on a posé des alertes. Or, bien, on voit que il n'y a pas de réaction, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Ça un peu.
C'est comme s'il y avait un déferlement.
Oui, c'est ça. C'est un peu comme si vous étiez. Comme si vous n'existiez pas.
Il a changé votre miel ?
Non. Non. Quand on discute avec les vieux, souvent quand ils viennent à la maison, ils goûtent le miel, ils disent « Ah, ça c'est le miel que faisait mon grand-père, et etc. » c'est assez formidable, chacun reconnaît le goût. Je pense que ce qu'on a fait, c'est peut-être plus définir des goûts, remettre... on a énormément de variétés de miel, donc on a redéfini des goûts pour que les gens puissent se retrouver. Sinon, je pense que... déjà à l'époque où les Corses commerçaient avec Gênes, il y avait pas mal de kilos de cire et de miel qui partaient vers l'Italie. Enfin, c'était plutôt un impôt qu'un commerce. Mais voilà, je pense que le miel corse existe depuis assez longtemps. Et je ne pense pas qu'il soit très différent. Sauf peut-être pour des miels de plaine, des miels de clémentinier qui ont été plantés donc il y a une quarantaine d'années, mais qui sont maintenant des miels corses à part entière.
Voilà. Et vous, Anicette Desrochers, votre miel, vous nous avez dit qu'il était très complexe et très savoureux. Il a changé ?
C'est dur pour moi de dire s'il a changé, puisque...
Et votre papa ?
Je ne crois pas qu'encore une fois, dans notre cas, nous, on est excessivement isolés du reste du Québec. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est un peu comme Paul. Il doit sensiblement être le même. Mais j'imagine que les miels qui sont plus produits, par exemple, dans l'Ouest canadien, ou les miels qui sont dans les centres agricoles, on doit avoir définitivement changé, oui. On a beaucoup plus de cultures présentement de canola, de colza, beaucoup plus de cultures de soya au Canada. Donc, antérieurement, je sais qu'on avait beaucoup des miels de trèfle, des miels de fleurs sauvages, des trucs comme ça. Donc, j'imagine que oui, les miels changent au Canada, oui.
Une ruche en ville peut produire 50 à 60 kilomètres en une année.
Lorsque en Ardèche, donc là où habite Maurice, c'est là où on pourra évidemment parler de politique et d'aménagement du territoire, de pratiques de culture et de monoculture notamment. Cette année, tu n'as quasiment pas produit de miel. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de ça. On va en Ardèche, autour de nous, c'est une nature, une véritable nature, ou ce qui semble être une nature, mais l'homme est intervenu de telle manière, en arrachant, en coupant des prairies avant qu'elles fleurissent, en sélectionnant le végétal, en considérant que ce qu'il n'a pas semé est une pollution végétale, simplement avec des soucis de rentabilité, de rationalisation, d'économie évidemment. On se retrouve à ne pas pouvoir faire du miel dans un certain nombre de régions de France, et elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses, à moins de déplacer les abeilles d'une ressource nectarifère à une autre. Aujourd'hui, pour faire du miel, il faut avoir un camion, un semi-remorque, être en mesure de charger ces 200 ou 300 ruches et de faire peut-être 2000 ou 3000 kilomètres par an et de traverser la France en allant d'une floraison d'acacia au centre dans la France, de la France à une floraison de tilleul, aller au lavande dans le midi, dans le sud de la France, ensuite partir dans les Vosges faire un miel de sapin et terminer en Bretagne faire un miel de bruyère. Donc il faut du fioul aujourd'hui. Il faut du fioul pour faire du miel. Et il y a évidemment du fioul en ville. En fait, là, on est en train de répondre aux deux grandes questions qu'on pose au moins 20 fois par semaine. C'est qu'est-ce qu'elles butinent tes abeilles ? Parce que finalement, c'est quand même un tortionnaire d'abeilles. Ils les invitent ici contre nature. C'est surnaturel, a priori, de faire de l'apiculture en ville. Et ensuite, cette histoire de fioul, de pollution, de métaux lourds, de choses respirables ou irrespirables, qui ne sont en plus pas fixées par le miel, qui est une sorte de magie, évidemment, naturelle. Et tu parlais du rôle de filtration de la nature, en fait. Jusqu'à un point, évidemment, il y a un moment où on va arriver à saturation. Et on arrive à ces choses tout à fait incroyables, qui sont en fait alarmantes. C'est à la fois joli l'idée d'un miel béton, puisque c'est son nom, hein, de produire Cette année, j'ai produit quasiment une tonne de miel sur le toit de la mairie de Saint-Denis. Mais d'un côté, c'est une démonstration. Et en plus de la quantité, il se passe une chose, parce que tout à l'heure, vous allez avoir du miel béton en bouche, enfin pour les plus courageux d'entre vous. Mais les plus courageux, il faut quand même savoir que ce miel, depuis le temps qu'on l'envoie au concours régional agricole, depuis, pour rigoler, mais sauf que pour rigoler, sérieusement, à chaque fois, il récupère au moins une médaille d'or au concours régional. Donc, depuis 4 ans, on a 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Une fois, on a envoyé 4 pots de miel, on a eu 4 médailles. Il faut savoir que c'est un concours qui se fait à l'aveugle, comme un concours de vin, d'œnologue, dans des pots normalisés, avec des apiculteurs, avec des grandes barres, qui font ça très sérieusement, en regardant à la fois la nature, la couleur, la filtration, la propreté, le pH, enfin tout un tas de choses, et évidemment surtout la saveur. Et vous allez voir que la complexité de cette saveur, elle est à l'échelle de la complexité de la ville. Évidemment, on n'est pas en mesure de faire un miel monofloral en ville, parce que c'est, on dit une fleur, mais en fait, c'est le résultat d'une succession d'anecdotes de butinage qui vont, comme on l'a dit hier, des bacs Riviera, tout ce que l'on peut mettre sur un balcon, donc des appropriations de micro-espaces à la DDE et à sa façon de planter des tilleuls le long d'un boulevard, aux arrière-cours d'immeubles et aux délaissés urbains, parce qu'évidemment, ils vont conditionner plein de choses, ces délaissés urbains. D'une certaine façon, la petite ceinture sur laquelle on va aller cet après-midi va aussi nous parler de tout ça, de cette ressource, l'élante, dont on va aussi peut-être reparler cet après-midi, parce qu'on va le voir. Il faut savoir que l'élante, dans le sud de la France, on l'appelle le grimpeau-cieux. Parce que ça pousse à une vitesse incroyable. Et en plus, effectivement, ça permet de produire un miel à une période de l'année pendant 15 jours. Tout à fait étonnant, et je vous en ai apporté un moment où cette élante prend une dominante dans le miel béton. Et c'est un goût inconnu. Vous allez voir.
C'est intéressant de voir ces dominantes, justement. Parce qu'il y a toutes sortes de fleurs, de balcons, etc. Mais ton miel, il a un caractère qu'on retrouve. Une saveur particulière, un peu mentholée. Alors moi, j'essaie de savoir d'où ça vient. Moi, je pense que ça peut venir du lierre terrestre, en particulier, le glaucoma, qui est médicinal, etc., qui est une petite plante. Mais très discret, on ne le voit pas, il est couché dans les pelouses, il rampe. Ça n'a rien à voir avec le lierre ordinaire. Et il y a une autre saveur, c'est les lances, et il y a le buddleia, qui sont des plantes ruderales, qui s'accommodent des détritus ou des gravats, etc., et qui poussent quelquefois à plusieurs mètres de haut dans un mur, sont des plantes parfaitement adaptées à la précarité de leur environnement et qui, avec ça, font du miel. Alors ça, c'est prodigieux, ça, j'avoue, ça m'émerveille. Mais ça a toujours existé dans le monde. Tout à l'heure, on l'a dit, nous sommes tous des immigrants ou des migrants, et ces plantes ont migré, parce que celui de Léa vient de Madagascar, l'élan, il vient de Chine, le glaucoma, il doit être gaulois, lui, le lierre terrestre. Je pense qu'il est... Il est autochtone. Mais voilà, donc il y a sans arrêt des grands mouvements de vie, et vous illustrez ça. Vous n'êtes sans doute pas tous d'origine parisienne, ouais, vous êtes là.
Vous êtes un sociologue des abeilles ?
Oui, enfin, je suis chercheur sur les abeilles depuis pas mal de temps. J'ai commencé avec le professeur Chauvin qui m'a donné la passion de cet insecte. Et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler sur le comportement de l'abeille ou la neurobiologie de l'abeille au cours de mes années au CNRS.
Le comportement en société ou individuel ?
Un peu les deux, effectivement. Au début, je me suis intéressé aux effets de l'isolement chez l'abeille domestique. Contrairement à ce qu'on pense, une abeille qu'on isole dans des conditions de température adéquates avec de la nourriture, elle peut vivre en dehors de sa colonie. Ça, c'était mes premiers travaux il y a bien longtemps. L'abeille isolée peut vivre jusqu'à 3 semaines, comme une abeille groupée, à partir du moment où on la nourrit et on lui donne une température de 32 degrés. Mais le plus intéressant, c'est évidemment d'étudier le comportement social. Donc, au cours des années récentes, je suis intéressé en particulier aux liens de parenté dans la colonie. La reine des abeilles, lors de son vol nuptial, est fécondée par une vingtaine de mâles environ, et elle conserve leur sperme pendant toute sa vie, et donc elle pond une vingtaine de fratries différentes. Et les outils de la biologie moléculaire, maintenant, nous permettent de faire de la recherche de paternité chez les abeilles. Donc on peut savoir dans une colonie quelles abeilles sont les vraies sœurs, les super sœurs, c'est-à-dire elles ont le même père, et lesquelles sont des demi-sœurs qui ont un père différent. Et c'est intéressant pour comprendre le comportement social, puisque en fait, les super sœurs, elles ont 3/4 de leur gène en commun, alors qu'avec les demi-sœurs, elles n'ont seulement qu'un quart de leur gène en commun. si bien que dans les colonies, il y a une cohabitation d'une vingtaine de fratries avec des liens de parenté quand même assez variables.
Et qui permettent de repérer des différences. Il y a un lien entre le lien de parenté et la place dans la société d'abeilles.
Alors, lorsque j'ai commencé ces recherches, il y avait deux voies. D'abord, essayer de comprendre si elles pouvaient se reconnaître leur lien de parenté par leur odeur. Et là, on a montré, il y a déjà quelques années, qu'à la naissance, elles ont une odeur caractéristique de leur fratrie. C'est-à-dire que toutes les supersœurs ont plus ou moins la même odeur sur leur cuticule, qui est différente de celle des demi-sœurs. Mais il semble qu'au bout de quelques jours dans la colonie, il y a un mélange des odeurs qui se crée, et il est probable qu'elles n'arrivent pas à distinguer leur niveau de parenté dans la colonie. Ça, c'était un premier aspect. L'autre aspect, c'était de savoir s'il y avait des fratries spécialisées dans la réalisation de certaines tâches. Alors, on a fait pas mal d'expériences avec des collègues autrichiens dans la nature, et on a pu montrer que les abeilles qui récoltent le pollen ont plus tendance à appartenir à quelques fratries seulement, alors que les abeilles qui récoltent le nectar sont plus généralistes. Il y a à peu près toutes les fratries sont capables de récolter le nectar. Donc, c'est des recherches de cette nature qui peuvent être faites, où on observe le comportement de l'abeille, puis ensuite on la capture et on analyse son ADN après coup. Et comme ça, en fait, on travaille en aveugle et on peut reconstituer un petit peu la spécificité de chaque fratrie.
Votre terrain de recherche, c'est uniquement Apis mellifera, l'abeille à miel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres?
Parce que c'est un insecte, moi je trouve fabuleux. C'est son organisation sociale qui est un très haut placé dans l'échelle de l'évolution, si on peut parler comme ça.
Plus que celle des autres abeilles.
Ah bien entendu, oui, c'est l'abeille qui a le plus haut degré de spécialisation et d'évolution. Et en particulier, tout cela n'est possible que parce que les abeilles ont énormément d'interactions entre elles et avec leur milieu. Lindauer a montré il y a maintenant pas mal d'années qu'en suivant une abeille marquée toute la journée, et puis de jour en jour, il a pu ainsi montrer qu'elle passait d'une tâche à une autre, mais surtout qu'elle passait beaucoup de temps à marcher dans la colonie pour, entre guillemets, se rendre compte des tâches à effectuer. Il n'y a pas de chef d'orchestre chez l'abeille ou de directeur qui va leur dire quoi faire. En fait, elle le trouve elle-même. Alors, elles ont dans leur gène quelque chose qui les conduit à la division du travail. En gros, au début de leur vie, elles sont nettoyeuses, puis nourrices, puis bâtisseuses, puis butineuses à l'âge de 3 semaines. Mais même à l'intérieur d'une certaine tranche d'âge, il y a une adaptation possible. Elles peuvent passer d'un comportement à un autre, en fonction des besoins de la colonie. Ça, c'est un point très important. Ce sont les besoins de la colonie, finalement, qui gouvernent la tâche des ouvrières. Mais pour cela, il faut qu'elles se rendent compte des besoins. Donc, elles explorent la colonie, ou elles explorent des abeilles qui arrivent de butiner. Et comme ça, elles savent s'il faut aller chercher du nectar, du pollen, s'il faut construire, etc. Et tout cela n'est possible que par cette recherche d'informations perpétuelles et aussi par tous les échanges d'informations qui a lieu dans les communications chez les abeilles. Vous connaissez peut-être les danses, qui est un merveilleux système qui leur permet de dire à leurs congénères où se trouvent des sources de nourriture. C'est danses qu'a décrites von Frisch pour lesquelles il a eu le prix Nobel. Il y a aussi toutes les communications chimiques par des odeurs. Enfin, tout un ensemble de communications, les sons également, que j'oubliais, qui sont très importants. Donc, l'ensemble de ces systèmes de communication fait que les abeilles sont informées quasiment en permanence de la présence de la reine, ou de si la reine est morte, ou comme je disais, d'une attaque, par exemple, par un intrus, ou des sources de nourriture qui sont à 1 kilomètre à l'ouest, etc. C'est en permanence un flux d'informations, une colonie d'abeilles.
Vous avez un exemple de ce type d'échange d'informations entre abeilles?
Alors, il y a des milliers d'exemples dans la colonie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une abeille qui va butiner, qui va rapporter du nectar ou des pollens, elle est immédiatement informée de la qualité de ce qu'elle rapporte par ses congénères restés à la ruche. En effet, si celle-ci ne se précipite pas pour la décharger de son nectar, c'est que ce qu'elle rapporte n'est pas très intéressant. Et dans ce cas-là, l'abeille butineuse est informée de la mauvaise qualité de ce qu'elle rapporte et elle ne va pas retourner au même endroit. Et par contre, si une abeille est délestée de sa récolte en quelques secondes seulement, ça incite cette abeille à danser pour recruter d'autres abeilles pour venir chercher la nourriture au même endroit. Donc c'est un exemple, mais on pourra en faire des dizaines, des centaines comme ça. En permanence, les abeilles sont au courant dans la colonie de la qualité de la nourriture et des besoins plus généraux de la colonie. Un autre exemple, quand il fait trop chaud à l'extérieur, la température de la colonie ne doit pas dépasser 34 degrés. Donc les abeilles ont besoin d'aller chercher de l'eau à l'extérieur, qu'elles vont ramener pour déposer sur les cellules et puis faire une sorte de ventilation qui va être équivalent à ce qu'on a dans nos climatiseurs. Eh bien, cette abeille, lorsque la température est élevée, quand elle retourne à la colonie, elle est déchargée également en quelques secondes. Et puis, quand le déchargement va prendre une minute ou deux, elle va comprendre qu'il n'y a plus besoin d'eau. Et c'est simplement parce que la température à l'intérieur de la colonie est redevenue normale. Donc elle est informée en permanence de la température de la colonie.
Et votre fameuse abeille isolée, alors, qu'est-ce qu'elle fait de sa pauvre vie pendant 3 semaines toute seule ?
Oh ben là, c'était juste pour voir quelle était l'importance du groupement sur le développement de certains organes. Donc là, en fait, elle était dans une cagette, elle vivait. Elle survivait plutôt, mais elle ne faisait rien de bien intéressant pour elle. Mais en tout cas, ça a été important pour nous pour comprendre certains effets de l'isolement. Mais je reviens à la colonie entière, qui est le plus intéressant à faire. Toutes ces régulations, ces systèmes de communication ne peuvent fonctionner que si le cerveau de l'abeille est intact. Le cerveau de l'abeille, c'est petit, vous imaginez, c'est très riche en synapses et c'est très riche en neuromédiateurs. On a montré que le cerveau de l'abeille avait à peu près les mêmes neuromédiateurs que le cerveau des vertébrés, que celui de l'homme. Et elles ne peuvent réaliser tous les comportements dont je parlais, toutes les régulations, que si leur cerveau est intact. Et c'est vrai que si les abeilles ingèrent des pesticides ou sont exposées à des pesticides qui vont éventuellement entrer en concurrence avec ces neuromédiateurs, eh bien on peut tout à fait comprendre facilement que leur cerveau va être perturbé et leurs comportements vont être affectés.
Gérard Arnold, en même temps, les abeilles ont des systèmes de défense assez extraordinaires.
Le principal système de défense, c'est la piqûre. Hein. C'est tout ce qui concerne les piqûres par rapport aux intrus, que ce soit des animaux, des autres insectes, même des frelons, par exemple. On a fait une expérience récemment avec des collègues chypriotes qui montrent que l'abeille, lorsqu'elle est attaquée, la colonie d'abeilles est attaquée par un frelon. Certaines abeilles gardiennes se jettent sur le frelon, l'entourent et l'étouffent. Donc, elles ont des capacités de défense. Mais face à certaines maladies ou face à des pesticides, par exemple, leurs capacités de défense sont quand même beaucoup plus faibles. Alors, les recherches récentes sur le génome de l'abeille, dont vous avez peut-être entendu parler, ont montré justement que dans le génome de l'abeille, les abeilles avaient très peu d'enzymes de détoxification, en tout cas moins que les autres insectes. Et ces enzymes sont importants puisque ce sont eux qui détoxifient certains pesticides. Donc, les résultats, il y a une quinzaine de jours, montrent que l'abeille en contient moins qu'un certain nombre d'autres espèces d'insectes. Et les auteurs de cette publication sur les génomes de l'abeille disent eux-mêmes, ça pourrait expliquer certaines mortalités d'abeilles du fait que celle-ci est moins bien armée que d'autres insectes à réagir aux pesticides.
Mais évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'en est-il du miel à ce moment-là, puisqu'on imagine assez volontiers l'abeille comme un filtre extraordinaire qui produit un miel parfaitement pur et nettoyé de tous les métaux lourds, pesticides, etc. En fait, non.
Ah, écoutez, si le nectar contient des pesticides, on a dit tout à l'heure que l'abeille pouvait ne pas retrouver sa ruche, pouvait mourir à l'extérieur, donc elle ne rapporte pas à la colonie ce nectar. Donc déjà, le problème est réglé malheureusement par la mort de l'abeille, mais comme ça, le produit reste pur dans la colonie. Donc moi, j'ai pas d'informations autres sur est-ce qu'on retrouve de ces produits dans le miel, par exemple. Le miel, à mon avis, reste un des produits les plus purs, autant que faire se peut, sur Terre. C'est sûr que si tout l'environnement est pollué, il y a aussi des effets sur les insectes et ce qu'elles rapportent. Mais globalement, par le fait même que l'abeille qui va rapporter du nectar contaminé peut mourir, ou en tout cas peut se perdre, je pense que le miel reste un produit très pur.
Mais quand même, si je vous suis bien, ça signifie qu'il n'y a pas d'études véritablement spécifiques sur les différents polluants atmosphériques dont on sait pourtant qu'ils sont nombreux aussi bien en ville qu'à la campagne, même s'ils sont différents.
Alors moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je travaille sur des sujets qui concernent plus l'organisation sociale. Mais le miel, c'est comme tous les produits. Je pense qu'il faudrait davantage d'analyses. C'est à l'État de réaliser ces analyses. Qu'est-ce qu'il y a dans les pommes? Qu'est-ce qu'il y a dans les salades? Qu'est-ce qu'il y a dans tous les produits que nous consommons? Donc c'est au service de l'État de faire des analyses. C'est pas aux producteurs de faire des analyses qui coûtent très cher. Donc il y a un manque peut-être à ce niveau-là pour tous les produits. Et parmi l'ensemble des produits, le miel reste probablement encore un des plus purs, comme je le disais, par rapport à de nombreux produits issus de l'agriculture intensive, par exemple.
Si on revient à vos travaux sur les sociétés d'abeilles, Gérard Arnold, est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des changements, j'ai envie de dire des changements sociaux, c'est-à-dire non plus des changements de comportement de chaque abeille, hein, qui seraient des changements neurobiologiques, mais des changements d'attitude au sein de la colonie?
Je crois qu'il est difficile de répondre à cette question parce que la recherche manque énormément de moyens. La recherche sur l'abeille en France est sinistrée, comme d'autres parties de la recherche d'ailleurs. Très peu de personnes, très peu de moyens. Donc on a du mal à répondre à toutes les questions qui se posent.
Manque de moyens, est-ce qu'à cela, il faut ajouter un sentiment d'urgence ou pas nécessairement?
Effectivement, il y a un sentiment d'urgence. Il y a un papier qui est paru dans Science il y a quelques semaines qui montre que c'est l'ensemble des pollinisateurs qui diminue en Europe. Il s'agissait là de l'Angleterre et des Pays-Bas. Donc les espèces sauvages, solitaires ou autres, et l'abeille domestique. Donc pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que les pollinisateurs, comme leur nom l'indique, pollinisent un grand nombre de cultures, d'arbres fruitiers, mais aussi de plantes sauvages, elles participent au maintien de la biodiversité végétale. Donc il faut sauver les pollinisateurs.
Voilà, vous savez que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site internet franceculture.com. Vous y retrouverez les émissions des deux mois précédents et notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage Éric Boisset, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.